d'horizon avec Jonathan Trudeau.
8h22, Jonathan Trudeau, mes hommages ce matin.
Salut!
Écoute, on va jaser du rapport de la protectrice du citoyen qui a été déposé hier, qui dit essentiellement tout ce que le gouvernement nous dit pas, mais qu'on savait. Ou ce dont on se doutait.
Ah, tu vois, non, mais c'est intéressant comment tu l'amènes, Dominique, parce que mon amorce, là, c'est oui. Exactement ça. C'est-à-dire que depuis hier, on entend les termes dévastateurs et tout ça, un rapport très dur. Mais il y a bien du monde qui me disent, avec raison, ben voyons, on savait tout ça. Il y a pas beaucoup de surprises là-dedans là, sur la vulnérabilité de nos CHSLD, sur le fait que bon, ils ont été mal protégés, qu'il y a eu une absence de disponibilité du matériel de protection, qu'on a transféré des patients même dans les CHSLD, qu'on les a carrément envoyés à l'abattoir et tout ça, que le gouvernement était pas prêt. On a l'impression qu'on apprend rien de nouveau. Mais le problème, c'est que ce rapport-là arrive au même moment où, depuis quelques semaines, a cours l'enquête de la coroner Jeanne Kamel. Et si je résume, depuis deux semaines, il y a l'ancienne ministre de la Santé, Danielle McCann, son ancien sous-ministre en titre, Yves Gendron, le directeur de santé publique, Horacio Arruda, qui, eux, ont été dire, et ces propos-là ont été appuyés par le premier ministre, ont été dire carrément le contraire. Donc, la réalité, c'est que les quatre personnes que je viens de vous nommer, là, McCann, Gendron, Arruda, premier ministre Legault, étaient les quatre personnes les plus importantes dans la gestion de cette crise-là, de la pandémie, les quatre personnes qui, au niveau décisionnel, avaient le plus de poids. Et eux ne reconnaissent pas l'évidence qui nous était mentionnée sur le terrain pendant la première vague, qui a été réitérée depuis ce temps-là et qui est prouvée dans le rapport de la protectrice du citoyen. Ça marche juste pas, là.
Ben, c'est un spin, hein? On essaie de nous envoyer un spin, que le gouvernement s'en est occupé, mais que, ah, vous savez, le réseau de la santé, c'est complexe, hein? Alors, même si on y a pensé, c'est que c'est tellement compliqué. Ouais, mais non, la réalité, c'est que vous en êtes pas occupé comme du monde.
Mais la pire connerie, c'est quand on tente de nous faire croire que au mois de janvier, ils étaient prêts, là. Ils avaient envoyé, semble-t-il, le message au PDG de CIS et de CIUS de préparer les CHSLD. Moi, je disais à la blague cette semaine que le pauvre singe est tout étourdi, là. Le singe a la nausée à force de se faire garrocher ses épaules d'un puis ses épaules de l'autre. On essaye de pointer du doigt tout un chacun sans que personne alors soit responsable. Alors que dans les faits, il n'y a pas de trace de cette directive-là. Il n'y en a pas de trace. Ça n'existe pas avant le mois de mars. Et le directeur de santé publique, qui faisait quoi, lui, au début du mois de mars? Il était au Maroc.
Ben oui,
il était au Maroc dans un congrès sur le pot à faire des jokes à la pandémie, là.
Maintenant, tu nous parles de ça. Il y a l'enquête de la coroner. Il y a eu maintenant le dossier de la protectrice du citoyen. Il y a aussi la commissaire à la santé qui va probablement déposer un rapport. Là, on a trois états de fait qui vont arriver là, dans pas long. Et l'opposition réclame une commission d'enquête publique. Pour les gens qui suivent pas trop la politique, qui savent pas trop comment ça marche, là, ça fait quoi de plus une commission d'enquête publique? Ça nous permettrait de faire quoi de plus à part avoir les mêmes constats, là?
C'est vrai qu'on en a déjà beaucoup. Je pense que ça fait œuvre utile, le rapport de la protectrice du citoyen. L'enquête de la coroner, c'est intéressant, mais en même temps, elle peut pas ratisser aussi large qu'une enquête publique. Puis elle, son rôle, c'est pas de pointer du doigt, de trouver des responsables, c'est de faire des recommandations. C'est sûr qu'un coroner, des fois, par la bande, va comme un peu donner son opinion puis laisser entendre qu'il trouve que si un tel avait pas fait ci ou si une telle avait fait ça, on n'en serait pas rendu là. Mais il reste que ce n'est pas son rôle. Alors que l'enquête publique, elle a tous les pouvoirs de contraindre des gens à témoigner. Et en plus, c'est niaiseux ce que je vais dire là, Martin, là, mais elle est publique. Et la différence, elle est importante parce que, prenons juste la semaine dernière. Si moi, comme analyste politique, je fais le bilan de la semaine politique, surtout à un an des élections, là, c'est toujours intéressant de voir qui gagne la semaine politique, qui a marqué des points, qui a subi du dommage. Le premier ministre Legault sortait assez gagnant de cette semaine-là. Là. L'histoire du hockey au Centre Bell, puis on veut ramener plus de Québécois, la pérennité du hockey, la pression sur Justin Trudeau pour le contrôle des armes à feu dans la foulée de ce qui s'était passé à Montréal, etc. Le premier ministre n'avait pas eu une mauvaise semaine, alors que parallèlement à ça, à l'enquête de la coroner Jeanne Kamel, ce qu'on apprenait est épouvantable. La disparition d'11 000 rapports d'enquête sur les CHSLD, tout ce qu'on vient de dire sur les incohérences dans le discours de Mme McCann, du Dr Arruda. Or, est-ce que c'est ça qu'on a retenu la semaine passée? Non, parce que dans le format d'une enquête du coroner, premièrement, on peut rapporter les propos, mais on ne peut pas diffuser aucune image. aucun extrait, on n'a pas le choix. Alors que souvenons-nous des commissions d'enquête récentes, Charbonneau, Bastarache, Gomery, le fait de pouvoir faire jouer des extraits, le fait de pouvoir le diffuser en direct, ça amène une pression beaucoup plus grande. Ça permet aux gens de se faire une tête davantage et d'aller au fond des choses. Je vous dis tout ça, Martin puis Dominique, et on m'a dit que hier dans l'espèce de huis clos, la présentation que la protectrice du citoyen a fait auprès des élus, elle avait une rencontre avec les élus avant de rencontrer les journalistes. Semble-t-il qu'elle, elle a dit qu'on n'avait pas besoin d'une enquête publique, qu'il y avait 27 recommandations et qu'au lieu de se gratter le bobo, il fallait mettre de l'avant ce qu'il y avait dans ces recommandations-là et passer rapidement à autre chose. Peut-être que elle, Mme Rainfray, a cette impression-là, mais moi, je l'ai pas. Il y a plus de 5000 personnes qui sont décédées dans la première vague, dans nos CHSLD. Il y a des familles qui méritent qu'on aille au fond des choses, qu'on ait la vérité. Par exemple, est-ce qu'une commission d'enquête pourrait nous dire, est-ce que le fait que notre personnel était mal protégé, mal informé, que les patients étaient mal dirigés, est-ce qu'on est capable de se questionner sur combien de morts, par exemple, auraient pu être évitées? Ce genre de questions. Ouais.
Mais moi, ce qui me perturbe le plus avec ce qui est sorti de ces rapports-là, c'est que pour quelqu'un de normal qui fréquentait des CHSLD de manière, sans dire permanente, là, de temps en temps, savait exactement ce qui allait se passer. Avec tout ce que ça impliquait, là. C'était prévisible fois mille. Moi, quand j'entendais les directives, puis on transfère les gens des hôpitaux vers les CHSLD pour libérer les lits, puis là, les mêmes infirmières qui vont d'un établissement à l'autre, puis là, on laisse encore entrer des gens sans contrôler s'ils sont porteurs ou non du virus. C'était sûr que ça allait éclater. Voyons, il y avait... Tu sais, c'est une botte de foin, là, puis t'as un incendie autour, puis tu regardes ça, puis tu dis, ah, mais ça pognera pas la botte de foin, parce que on protège le tour. Hein,
non, c'est ça. Je te donne un exemple en particulier. Si la COVID a tellement été présente, a tellement ravagé nos CHSLD, c'est pas parce que mon oncle Émile ou ma tante Gertrude, elle allait à l'extérieur puis elle ramenait la COVID. C'est qu'il y a des gens qui entraient la COVID. De parler des visiteurs, oui. Mais parlons du personnel du système de santé. Puis moi, l'exemple qui m'a le plus frustré, puis écoute, à l'époque, là, j'ai écrit là-dessus dans le journal, j'en parlais à télé, j'en parlais à la radio, je l'ai crié sur toutes les tribunes sans qu'on me donne jamais une bonne réponse. J'ai questionné des politiciens là-dessus. Je te donne cet exemple suivant-là. Sur la disponibilité du matériel de protection, les fameux EPI, les équipements de protection individuelle, combien de fois la ministre de la Santé à l'époque, Danielle Mécan, nous disait « On a suffisamment de matériel pour respecter nos protocoles en matière de protection de nos employés. » Et moi, je posais la question. Quand la ministre nous dit qu'on a assez de matériel pour respecter nos protocoles, comment est-ce que ces protocoles-là sont édictés? Est-ce qu'ils sont faits en fonction des meilleures pratiques pour diminuer au maximum le risque de transmission? Ou est-ce qu'ils sont rédigés en fonction du matériel disponible?
Ben, vous, je suis convaincu
que
c'est numéro 2.
Que... ben, c'est ça. Mais non, mais c'est parce que poser la question, c'est pas mal y répondre, mais pendant ce temps-là, la ministre, elle nous disait dur comme fer, non, 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 on est protégé, on en a assez, alors que sur le terrain, c'était tout le contraire. Écoute, je vais vous raconter une anecdote, OK? Que je pense pas la première fois que je le dis à la radio, mais à vous autres, je pense que c'est la première fois. J'ai dû le dire 15 000 fois dans les dernières années que ma conjointe est médecin spécialiste, parce que quand je défends les médecins, je dévoile toujours mon billet, là, quand même. Et ma blonde, donc, elle est gynécologue, obstétricienne gynécologue. Elle au monde, entre autres, des bébés. Et un moment donné, dans toutes les réunions qu'il y avait à savoir... qui a le droit au fameux N95? Souvenons-nous de cette époque-là, là. Tu sais, le N95, c'était rare comme de l'affaire de pape, là. Puis c'était pas tout le monde qui avait le droit à avoir un N95. Et quand est venu le temps de se demander si les obstétriciennes gynécologues avaient droit au N95, ils se sont fait dire la chose suivante. Quand vous autres, vous faites un accouchement, vous avez la tête comme entre les jambes de la patiente. Donc, vous êtes relativement loin de sa bouche. Fait que ça représente pas un risque pour vous, donc pas d'N95 pour vous.
Ouais, mais elle fait du karaoké.
As-tu déjà vu une femme crier puis respirer fort puis en accouchant? Ouais. Ils se sont fait dire qu'eux autres avaient pas le droit d'N95 parce qu'il y avait la face entre les deux jambes. Non, vous croire ça?
Ça n'a aucun sens. Puis là, elle crie, là. C'est bien plus que dans le karaoké. Mais, là, c'est ça, là.
Mais conséquences politiques à tout ça, là. Est-ce qu'on a l'impression que la personne a déjà été désignée puis c'est Danielle Mécan puis elle a été rétrogradée à cause de ça?
C'est ça que je veux savoir, Martin. C'est parce que ce que tu dis là semble être l'évidence en termes de d'apparence, si on veut, d'image publique. Mais tiens, elle est où la ministre Blais? Marguerite Blais, ministre responsable des aînés, elle était supposée témoigner à l'enquête du coroner. Elle n'est pas là parce qu'elle est en congé de maladie. Épuisement et tout ça. Puis j'ai parlé avec des gens en coulisses, puis on me dit que c'est pas évident pour Mme Blais là, en ce moment. Certains questionnent le timing, là, que comme par hasard, il y avait l'enquête, puis ben, mettons que je remets pas en doute la bonne foi des acteurs là-dedans. Il reste que on doit entendre Mme Blais. Certains vont dire « Ah oui, mais dans le fond, elle avait un rôle de figuration, c'était une pancarte. » Ben si c'est ça, je veux le savoir. Je veux que quelqu'un vienne nous l'expliquer que la ministre des aînés avait aucun impact dans le processus décisionnel. Moi, je veux savoir si elle a levé la main en disant « Hey, je pense qu'on est vulnérable des CHSLD, mais que personne ne l'a écouté. » Je veux avoir ces réponses-là. Je veux qu'on nous le dise. Puis tu sais, le but est pas de simplement pointer du doigt un coupable. T'sais, ah, c'est de ta faute. Certains diront, de toute façon, ça changera rien à ce qui s'est passé. Je m'excuse, mais de un, je crois particulièrement au principe d'imputabilité en politique. Il y a des gens qui doivent être imputables des décisions qui sont prises ou qui ne sont pas prises, premièrement. Et deuxièmement, je ne veux plus jamais que ça se reproduise. Quand je pense aux gens qui ont été endeuillés, aux familles. Moi, ma grand-mère là, est décédée depuis ce temps-là, mais à 93 ans, elle était au CHSLD La Salle.
Ouais.
Je sais pas si vous vous souvenez, mais c'est un des CHSLD dont on parlait beaucoup dans l'actualité, parce que moi, ma grand-mère, qui était plus toute là, là qui était pas en mesure de tout nous raconter ce qu'elle vivait ou ce qu'elle ne vivait pas, ben, à un moment donné, on était 10 jours sans avoir de ses nouvelles. On appelait puis ça répondait pas. Là.
Non, mais c'est ça.
Elle a fini par la pogner, la COVID. Avez-vous idée que ça fait quoi aux familles? Puis moi, elle n'est pas décédée de la COVID, elle est décédée de cause naturelle quelques mois après. Mais ceux qui ont perdu leurs proches sans avoir de nouvelles, sans savoir dans quels états ils étaient.
Il y a eu des victimes collatérales. Là. Moi, j'ai connu mes deux grand-mères avec des déplacements là, qui ont perdu beaucoup, beaucoup de facultés. Il y a des gens qui ont perdu
ben,
aussi.
Quand tu t'en occupes plus.
Quand tu t'en occupes plus, quand tu les déplaces, quand tu les bouges, quand ils sont en surstress, quand ils n'ont plus leurs proches aidants, quand ils ne voient plus leur famille, c'est des gens qui se laissent dépérir rapidement. Donc, ils sont peut-être pas morts de la COVID, mais ils sont morts à cause de la COVID.
Mais la solution à tout ça, là, elle est tellement simple, messieurs. Là. Tu nommes un responsable par établissement, par CHSLD, puis ta job, là, arrange-toi pour que ça marche. C'est ta job, puis on vous met tout en compétition les uns les autres. Là. C'est pas vrai que les CHSLD sont tous égaux, ils sont tous pareils. C'est pas vrai que les hôpitaux puis les médecins sont tous égaux, sont tous pareils. Le gouvernement a cette mauvaise manie de tenter de nous faire croire que parce que c'est le gouvernement, c'est tout égal. La réponse, c'est pas vrai. Et ça ne se peut pas.
Et il n'y avait pas de responsable par CHSLD. Tu n'avais pas un responsable.
Mais
on dit que ça a été réglé. Mais tu sais, Dominique, moi, je veux bien qu'on parle des solutions. Puis le premier ministre hier aussi dit « Ah, ben tu sais, on est déjà en mode solution. » Puis le ministre de la Santé, mais je considère pas qu'on a fait la lumière sur ce qui s'est passé. Je ne considère pas. Puis plus que jamais, je pense que c'est essentiel de faire. C'est pas juste de se gratter le bobo. Moi, je veux savoir ce qui s'est passé parce que autant que je trouve que le premier ministre, de façon générale, a bien géré la crise, a eu une présence qui était rassurante pour bien des Québécois, autant que celui qu'on a vu hier, qui est sur la défensive, qui semble dire à quiconque soulève des questions sur la gestion de la pandémie, il semble dire « Oh, c'est ça, toi t'aurais fait mieux, hein? T'aurais-tu fait mieux, ouais. Mets-toi à ma place? » Non, c'est pas ça. On a le droit de poser des questions. Il n'y a pas personne qui dit « Moi, en tout cas, moi je dis pas ça, là, j'aurais fait mieux que lui. » Non. Je veux savoir pourquoi on a merdé. Je veux savoir pourquoi on a été si mauvais dans la première vague. On a été bon après, là. Mais dans la première vague, mon Dieu, qu'on a été mauvais.
Je commence à me poser la question, sincèrement, là. Est-ce qu'il a bien géré, le premier ministre, les communications entourant la pandémie ou il avait vraiment bien géré la pandémie? C'est deux affaires différentes. Parce qu'en termes de com', là, le rapport de Jeanne Gamelle sort la semaine dernière. On nous inonde d'une réforme sur le hockey pour être sûr, on n'en parle pas dans les médias, pour être sûr que le hockey enterre le rapport CCHSLD. Hier, on sait très bien que la protectrice du citoyen présente son rapport. On fait la conférence de presse sur la vaccination des 5 à 11 ans la même journée. Ça fait 4 jours que le vaccin est approuvé et notre plan était déjà fait. Pourquoi on présente ça la même journée? Parce qu'on sait très bien que ce qui va spinner, c'est les rendez-vous sur Clic Santé. Puis personne ne va parler du rapport CCHSLD, on va balayer ça. C'est tout est une histoire de communication et c'est ce qui m'écœure avec ce gouvernement-là. Je trouve que derrière, ça, tu sais, il fait preuve d'une fausse transparence.
C'est sûr qu'il y a de la stratégie, OK? Mais j'aime bien dire ceci, Dominique. Pour avoir travaillé dans un cabinet de premier ministre, pour avoir travaillé dans des cabinets ministériels, je dis toujours que les gens seraient tellement déçu des fois de voir à quel point il y a moins de stratégie profonde que ce que vous pensez.
J'ai tellement pas de misère à le croire.
Non, je suis d'accord avec toi.
Mais parce que moi, ça fait des années que je... Écoute, quand j'étais au cabinet de M. Charest, on n'avait pas la même équipe de communication que François Legault a, là. Je pense qu'ils sont 18. Nous autres, il y avait l'attaché de presse slash directeur des communications, Hugo Damon. Il y avait moi qui était conseiller, puis il y avait genre deux adjoints. C'était à peu près ça, OK? Et là, il y avait des conseillers externes et tout ça. Puis là, il y a des fois des gens qui disaient, ah oui, là, clairement, on voit qu'ici, là, c'est une stratégie de communication gouvernementale, alors que des fois, les choses arrivaient juste par hasard ou que le matin, à la réunion, il y a quelqu'un qui a fait comme, ah, hey, on pourrait dire ça aujourd'hui. C'est, les gens seraient très, très, très déçus, là. C'est pas du House of Cards, c'est pas
non, puis en même temps, l'opposition,
comme dans les grandes séries politiques.
T'sais, l'opposition, c'est son rôle aussi, là, de nous faire croire que le gouvernement est fort et puissant puis qu'il contrôle tout le message au complet. C'est un peu leur job aussi de nous démontrer que tout ça mais là, est une grande machination.
Mais depuis une semaine, c'est un peu une évidence, là. Je veux dire, c'est n'importe qui aurait pensé.
Sur l'annonce de hier, mettons, là.
Ouais.
T'sais, souvenons-nous quand même que Pfizer a approuvé vendredi. Les vaccins sont arrivés dimanche. Fallait que le comité québécois lui donne son approbation. Ça a été fait hier avant midi, puis ils ont fait l'annonce tout de suite. Tu sais, j'ai pas l'impression que ils ont voulu retenir l'information. Tu sais, on en a parlé il y a quelques semaines, d'ailleurs, ça. Tu sais, que je vous disais, c'est pas vrai que tout est blanc ou tout est noir. C'est-à-dire que le gouvernement dit, est-ce que je vais poser tel geste en fonction de l'intérêt supérieur des citoyens ou je vais le poser uniquement pour des considérations politiques et partisanes? Il y a toujours un peu des deux. Tu sais, exemple, est-ce qu'hier, il aurait pu faire le point de presse à 13h au lieu de 17h? Probablement que de le faire à 17h, ce sont on peut-être venir piler sur le rapport de la protectrice, mais d'aucune façon, je pense qu'il y a quelqu'un qui a dit « Monsieur le Premier ministre, dimanche après-midi, on est prêt à faire notre conférence de presse, commencer la vaccination lundi », puis qui a dit
ouais, mais...
« Savez-vous quoi? On va retenir la vaccination de 48 heures parce que mais là, il y a le rapport de... » Tu sais, c'est pas si machiavélique que ça.
Je pense qu'il pouvait le faire la veille à 17h parce qu'à 7h le matin hier, Clic Santé était déjà ouvert à la prise de rendez-vous. Ils ont entendu... C'est après.
Mais ça a toujours été comme ça, Dominique. Ça a toujours été comme ça. Chaque fois qu'ils ont ouvert une nouvelle tranche d'âge, le matin avant, c'était déjà disponible. C'est pour ça que tout le monde s'est garoché un matin en se disant, d'après moi, les rendez-vous vont déjà être disponibles. Ça a été comme ça à toutes les fois qu'on élargit cette tranche. Mais tu sais, je veux pas en l'air de le défendre parce qu'en même temps, ça fait 15 minutes que je m'emploie à les ramasser. j'aime pas l'attitude du premier ministre. Ce que je veux dire, c'est que moi, ce que je pense, en fait, à ta question initiale, là, je pense que la première vague a été mal gérée. Je ne pense pas qu'il y ait des gens qui étaient mal intentionnés. Je comprends qu'il y avait une situation particulière et que partout dans le monde, on a été un peu pris de court, mais il y a eu des mauvaises décisions. Après ça, ce que je considère que dans l'ensemble, le gouvernement l'a bien géré, pas parfait, mais je pense qu'entre autres avec la vaccination, ça a été une belle réussite. Mais la belle réussite, la deuxième, troisième, quatrième vague, l'opération de vaccination ne vient pas effacer ce qui s'est passé dans la première vague et l'importance de comprendre ce qui s'est passé. Puis j'ajoute à ça que, mon Dieu, que j'aime pas l'attitude du premier ministre quand il essaie de défoncer. Ouais, ça, c'est ce que je retiens d'hier.
Faut parler quand même assez rapidement de la vaccination des 5 à 11 ans. Moi, j'ai gagé avec mon collègue, on dépasse pas 60%.
Je pense pas. Puis déjà, on a vu que le premier ministre hier a baissé les attentes. Puis il y a un lien entre ce qu'on a parlé et ce qu'on parle là. C'est-à-dire, tout le brouhaha entourant la gestion du gouvernement, le gouvernement qui est dans une gestion de crise, jusqu'à quel point ça peut nuire à sa crédibilité dans sa capacité à amener les gens à se faire vacciner, les 5 à 11 ans à se faire vacciner. Parce que, tu sais, dans les faits, hier, je regardais le message qui a été diffusé par le premier ministre, puis je pense que la stratégie était bonne, tu sais, d'avoir un ton très serein, de pas être dans une dynamique de quasiment chicaner les gens comme on le faisait jadis, là, tu sais, de comprendre que là, on parle de 5 à 11 ans, on parle de parents qui, des fois, eux autres, sont full vaccinés, mais que quand tu parles de leurs enfants de 5 à 11 ans, ils sont pas sûrs, ils ont des risques. Donc, j'ai trouvé que l'approche d'être très serein, d'éviter de mettre des jeunes dans le coin là, tu sais, en disant ben il y aura pas de passeport vaccinal pour les 5 à 11 ans, des trucs comme ça. J'ai trouvé que l'approche était bonne. Maintenant, faudra voir les résultats quand même. Il y avait déjà 80 000 rendez-vous de prix. C'est 12% là si je me souviens encore de mes mathématiques de secondaire 5. Fait que c'est pas si mal. Moi, on m'a dit que pour 10 heures, pour la période de questions, il y aura un nouvelle mise à jour là. Je pense que ça va monter assez rapidement, mais tu sais, c'est parce que le gouvernement peut pas dire ça va prendre 80% pour qu'on lève l'urgence sanitaire. Ça aurait aucun espèce de bon sens.
Ben non, il a changé son discours, c'est ça, parce que là, c'était trop rough la semaine passée, puis c'était clair qu'on n'atteindra pas ça. Là. Mais tu sais, moi, je parle à des pédiatres, puis Il y a personne qui veut le dire micro ouvert, là, mais ça parle beaucoup à micro fermé. Les pédiatres sont pas si convaincus du risque-bénéfice, risque de ce vaccin-là pour les enfants. En tout cas, ceux à qui j'ai parlé me disaient, voir, ouais. Je suis pas sûr. T'sais, on protège-tu davantage les non-vaccinés et les gens plus vulnérables que les enfants eux-mêmes?
Ah, mais ça sert entre autres à ça. Ça sert entre autres à ça. Mais encore ce matin, j'ai essayé de valider des chiffres parce qu'on a tellement de chiffres, tellement d'études. Puis il y a un chiffre que moi, j'avais véhiculé en ongle. Puis il y a des gens qui me disent, ah, t'as pris ça où? Puis j'ai été refouiller ça puis trouver d'autres sources qui disent la même chose. C'est-à-dire que si on parle des risques reliés à la COVID pour les jeunes, si on prend par exemple ce qu'on appelle le syndrome inflammatoire multisystémique, bref, appelons ça une complication de la COVID-19, c'est une chance sur 3000 pour les jeunes. Alors que pour ce qui est des chances des risques de myocardite, là, l'infection de l'enveloppe du cœur reliée au vaccin, on parle de une chance sur 10 000. Ça, c'est chez les jeunes hommes de 18 à 29 ans et on dit que le risque est plus faible chez les 12 à 17 et encore plus faible chez les 5 à 11 ans. Donc moi, en tant que parent, là, tu sais, moi j'en ai deux. Là. J'en ai un qui a eu la COVID, malheureusement, l'autre qui l'a pas eu. Est-ce que je considère que le risque est acceptable? Tu sais, j'aime mieux le une chance sur 10 000 lié au vaccin que le une chance sur 3 000 lié à la COVID, même si on s'entend que une sur 3 000, c'est très minime comme risque, là, mais l'autre, il y a encore plus.
Ouais.
Fait que si je peux m'en sauver, moi je peux te dire les rendez-vous sont déjà pris là.
Ouais,
les
sûr,
rendez-vous
c'est...
sont pris, il y a aucun espèce de doute, mais peut-être pour finir de Dominique Martin, moi j'ai hâte de voir pour Noël. Là.
Oui.
Parce que là ils nous ont dit qu'ils attendaient, moi je maintiens qu'il y a une espèce de syndrome post-traumatique, là. Ils sont traumatisés du recul de l'an passé sur le contrat moral de Noël. Ce que je peux vous dire là, c'est que moi on me dit en coulisses qu'effectivement ils veulent pas annoncer d'allègement effectif avant Noël pour être sûr que on vienne pas poser des gestes qui nous rendraient déjà un peu plus vulnérables avant d'arriver à Noël. Donc ils veulent pouvoir ouvrir rendu à Noël. Moi ce qu'on me dit là, c'est que essentiellement ça va tourner autour du nombre de personnes dans les domiciles. Tu sais, c'est il y aura pas d'histoire de hey, pour Noël on annonce le retrait des masques dans les restaurants ou tu sais essentiellement ce qu'ils veulent c'est dire mettons au lieu d'être 10 ben ce sera 20-25. J'espère qu'on va être dans ces eaux-là là, parce qu'à 10 c'est complètement ridicule, mais je sais que même s'ils osent pas le dire, ce sur quoi ils travaillent en ce moment c'est d'augmenter.
Ben moi j'ai des nouvelles pour toi
pour que les gens puissent fêter Noël en ayant un pif.
J'ai des nouvelles pour toi là en coulisses dans ma famille, on te fait dire qu'ils annonceront bien ce qu'ils veulent, on va être le nombre qu'on veut.
Dans la coulisse, dans pas mal de les familles, j'ai bien l'impression que ce que va annoncer le gouvernement puis ce qui va se passer, ça va être deux choses.
non, mais vous avez raison, mais moi, je pense que le gouvernement a la responsabilité d'établir des règles logiques, OK?
Ouais.
Ce que je veux dire, là, c'est que pour les événements en salle, là, par exemple dans les arénas, ils ont dit le maintien du masque est obligatoire là, dans les dernières semaines, mais ils savaient très bien que les gens le feraient pas. Mais par principe, ils l'ont fait. Ils ont pas le droit de faire ça pour les parties de famille à Noël. Ils ont pas le droit parce que ce que vous dites là est peut-être vrai dans la majorité des cas, mais moi, je connais des gens qui, à l'intérieur d'une même famille, il y a du monde qui vont se dire, même si ça me fait chier, je vais respecter les règles parce que je suis pas à l'aise avec le fait de pas respecter les règles. Puis là, il y a du monde dans la famille qui vont dire, ben voyons, on vient, puis là, ça va faire la chicane. On a-tu vraiment besoin d'avoir plus de merde dans les familles au Québec parce que le gouvernement est pas clair puis qu'il se dit bah de toute façon les gens le respecteront pas donc on élargira pas. Non, élargissez là puis permettez donc aux gens de partir l'esprit tranquille à Noël. Ouais. On peut-tu faire ça s'il vous plaît?
Ouais, j'ai tendance à être d'accord avec ça. Jonathan, merci beaucoup.
On a fait une belle run encore.
Ah oui, on n'est pas pire. On est 25 minutes, on est bon là-dedans.
Salut.
Salut. Jonathan Trudeau, il est 8h45.
Le show du matin.